J'aimerais commencer ce message en vous posant une question ouverte. Alors bon, j'attends pas spécifiquement une réponse de chacun, mais je vous pose quand même la question. Ça vous aidera peut-être déjà à cibler un peu où est-ce qu'on va voyager aujourd'hui dans la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts pour cette question? Oui? Ok. Alors, est-ce qu'il y a une partie de votre corps que vous préférez plus qu'une autre? Ou bien alors qui vous paraît plus utile qu'une autre? Je vous laisse réfléchir. Chacun a peut-être ses réponses. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul apporte une réponse intéressante à cette question en disant que les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. C'est ce que nous dit Paul dans la première épître aux Corinthiens. Il dit aussi d'ailleurs que si tout le corps était un œil, eh ben, où serait l'ouïe? Et si tout était ouïe, où serait l'odorat? Et c'est vrai que ça, on peut se poser la question. Si on était composé que de nos yeux, eh bien, ça nous poserait quelques problèmes au quotidien, je pense. Et en ce qui concerne notre vie avec Dieu, c'est un peu la même chose. C'est pourquoi le Seigneur a trouvé bon de nous donner l'Église qui est le corps de Christ. Le rassemblement donc de tous ses membres. Ça vous fait quoi d'être un membre du corps de Christ? Amen. Alors, certains l'ont peut-être deviné, aujourd'hui nous allons commencer par lire un passage dans donc, la première lettre de Paul aux Corinthiens. Et donc je vous propose la lecture des derniers versets du chapitre 12 en guise d'introduction. Donc 1 Corinthiens 12, à partir du verset 27. « Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. » Et c'est le titre de mon message, « Aspirons aux dons les meilleurs ». J'aime ce passage, je ne sais pas vous, mais moi ce passage il me réjouit. Alors, commençons d'abord par apporter un peu de contexte autour de cette lettre qui a été donc transmise par Paul à l'église de Corinthe. Corinthe, c'était une grande ville commerçante, desservie par deux ports, avec une population relativement variée, issue essentiellement du paganisme, donc qui avait de nombreuses croyances en de nombreuses divinités. Et lorsque Paul s'y rend pour la première fois, le Seigneur lui donne une vision qui nous est décrite dans le livre des Actes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans Actes 18, au verset 9, le Seigneur dit à Paul, en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle, ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Et il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Donc c'est intéressant de voir que, bien que Paul se soit retrouvé dans un territoire qu'on peut dire plutôt hostile à l'Évangile, ou en tout cas qui n'était pas vraiment apte à le recevoir, le Seigneur dit à Paul pourtant qu'il a un peuple nombreux dans cette ville. Et donc je pense que déjà c'est une leçon qu'on peut tirer pour chacun de nous, parce que souvent on peut se dire c'est perdu d'avance, c'est inutile de communiquer l'Évangile, c'est vanité, mais le Seigneur vient en rassurant Paul et en lui apportant déjà la paix, en lui disant qu'il est avec lui et en lui apportant cette prophétie, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Alors les Corinthiens, à travers leurs multiples divinités, étaient dans un environnement relativement mystique. Et c'est pourquoi Paul amorce le chapitre sur les dons spirituels en déclarant que nul, s'il parle de l'Esprit de Dieu, ne dit que Jésus est anathème et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Ça permet déjà de cadrer les choses spirituelles. Alors anathème, ça veut dire quoi anathème ? C'est un mot un peu compliqué et relativement transparent parce que ça vient du grec anathema. Et donc anathème, c'est une chose qu'on laisse sur place et qui est vouée à être détruite, maudite, offerte aux idoles. Et aujourd'hui encore, dans notre société, eh bien, on peut voir de nombreuses croyances qui finalement disent explicitement que Jésus est anathème. Beaucoup de croyances disent que, oui, Jésus a existé, qu'il était un homme bon, un homme merveilleux, avec des valeurs incroyables, humanistes. Mais ça s'arrête là. Toutes ces croyances, elles disent finalement explicitement que Jésus est anathème. Elles le mettent de côté en lui retirant son onction, sa seigneurie. Et toutes ces croyances, eh bien, elles sont sous l'influence de divers esprits. Et c'est pourquoi Paul enseigne qu'il n'y a qu'un seul Saint-Esprit, celui qui dit « Jésus est le Seigneur ». Et la particularité de cette épître aux Corinthiens, je ne sais pas si vous avez déjà prêté attention, mais c'est qu'elle n'est pas uniquement adressée à l'église de Corinthe. Paul, tout au début de sa lettre, lorsqu'il fait ses salutations, dans le premier chapitre, il dit s'adresser à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Paul, dans sa lettre, s'adresse donc aux Corinthiens, il le dit, mais il s'adresse aussi à l'Église de Dieu en tout lieu et en tout temps. Paul s'adresse à l'Église de Seloncourt, oui. Alors, ces fameux dons, de quoi s'agit-il ? Paul nous parle ici de dons spirituels. Il ne nous parle pas de talent ou d'aptitude. En grec, il parle de charisma pneumatikos, donc dons spirituels, dons de l'esprit. On voit aussi la transparence, parfois on parle de charisme aussi, charisma. Il s'agit donc de faveurs reçues sans aucun mérite. Le mot don utilisé ici, c'est le même que le don de la grâce. Les dons spirituels, tout comme le don de la grâce, nous ne pouvons les recevoir par un quelconque mérite. Ils ne sont pas à vendre, on ne les achète pas, on ne les troque pas, ce n'est pas par des œuvres que l'on reçoit les dons du Seigneur, c'est par la foi. Et c'est pour faire des œuvres qu'il a préparées d'avance. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, nous lisons dans Éphésiens, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il y a une raison derrière. C'est pour ne pas se glorifier de ses dons. Alors, par la foi, nous pouvons aspirer au don du Seigneur. Jésus a dit au centenier, « Va qu'il te soit fait selon ta foi. » C'était au sujet d'une guérison. On le lit dans l'évangile de Matthieu, la guérison de son serviteur. Il a également dit à un aveugle, « Ta foi t'a sauvé. » Et je pense que c'est aussi en lien avec ce qu'entend Paul lorsqu'il dit « Aspirer aux dons les meilleurs. » Ils font partie des richesses du royaume de Dieu. Par la foi, nous sommes sauvés. Par la foi, nous aspirons aux dons spirituels. Et dans ce court passage de Corinthiens que je vous ai lu tout à l'heure, la dernière phrase, elle m'a vraiment interpellé. Aspirez aux dons les meilleurs. De quoi il parle ? Et juste après cette phrase, pour resituer le contexte dans l'épître, Paul dira qu'il va nous montrer une voie par excellence et il enchaînera avec le magnifique chapitre 13 que je pense tout le monde a un peu en tête, ce véritable hymne à l'amour qui explique que tout don de l'esprit doit être préalablement convoité par un cœur rempli d'amour. Et que de toute évidence, c'est bien cela le plus important parce que l'amour ne périt jamais. Ce que nous dit Paul, que les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais l'amour, lui, ne périt jamais. Et puis ensuite, Paul, au début du chapitre 14, eh bien, il reprend avec cette phrase « Recherchez l'amour, mais aspirez aussi au don spirituel et surtout à celui de prophétie. » Il faut considérer que quand il écrit sa lettre, il ne la met pas en chapitre. Nous, on a les chapitres pour s'y retrouver, mais il écrit ça dans une globalité. Donc, il redit « aspirer au don spirituel ». Alors, je me suis intéressé, ce mot « aspirer », qu'on traduit par « aspirer », en tout cas dans certaines versions, eh bien, c'est quoi ? C'est le verbe « zélo » en grec, et ça veut dire être zélé, brûler de zèle, bouillir d'envie, s'occuper sérieusement de quelque chose. Et ce mot, il peut même être utilisé de manière un peu plus péjorative, parce qu'il exprime aussi le fait d'une jalousie, d'être envieux, d'avoir un désir profond, d'être jaloux de vouloir. Donc c'est un mot fort qu'utilise Paul. Et à mon sens, en disant cela, Paul met l'accent sur un point essentiel. Très souvent, et je le dis comme étant le premier concerné par ce mode de pensée, très souvent on aimerait que Dieu fasse les choses à notre place. Ce serait tellement confortable. On aimerait que Dieu prenne la décision, même dans notre vie, à notre place. On aimerait juste se mettre dans la limousine et laisser le chauffeur conduire. Laisser Dieu nous conduire dans cette limousine. Comme ça, bah, s'il fait un accident, bah, c'est pas trop de notre faute. Et puis, s'il nous amène à un bon port, grâce à Dieu, merci. Mais ce qu'on a tendance à oublier, c'est que c'est contraire à sa volonté de fonctionner comme ça. Dieu ne vient pas dans la vie des gens qu'il accepte pour les enchaîner. Il vient pour faire tomber les chaînes. Il vient pour libérer les captifs. Et la liberté, elle a toujours un prix, elle est accompagnée justement d'une responsabilité. C'est une alliance qu'on fait avec Dieu. C'est une collaboration avec son Saint-Esprit. Et comme on l'a vu avec Paul, Dieu nous dit qu'il est à notre côté. Il vient nous fortifier. Il est là en ce moment. Il me fortifie en ce moment. Parce qu'il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et cette parole, elle est vraie. Elle est véritable. Dieu manifeste donc sa volonté en tenant compte de celle de ses enfants. Ou en d'autres termes, Dieu ne va pas donner à quelqu'un ce qu'il ne souhaite pas recevoir. Jésus disait dans l'évangile de Matthieu, « Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Et dans l'évangile de Luc, il y a une petite variante sur cette phrase, « À combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Il faut donc vouloir cette collaboration. Jésus dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Chaque fois dans cette phrase, le premier verbe employé, c'est une action de notre part. Demandez, chercher, frapper. Le premier, c'est la requête formulée à Dieu. Je demande à Dieu. Je prie Dieu. Le second, c'est la persévérance. Chercher, continuer, persévérer. Et le troisième, c'est l'action. Frapper, frapper. Et on vous ouvrira. Dieu tient toujours compte de nos décisions. Alors, je vais encore illustrer cela avec quelques mots. Dieu, au commencement, si vous vous souvenez bien, il a créé un jardin, l'Éden, jardin des délices. C'était la volonté de Dieu. Il a placé l'homme et la femme et il leur a donné la responsabilité de ce jardin. Et après que le fruit qui provoque la mort ait été consommé, un peu plus loin, après que Caïn ait commis aussi le premier meurtre de l'histoire et qu'il s'éloigne de l'Éternel, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il bâtit sa vie loin de l'Éternel. Il fonde une famille, donc il a un fils qui s'appelle Enoch, et il bâtit une ville. C'est la première fois que la Bible parle d'une ville. Il bâtit la ville qu'il nomme Enoch, d'ailleurs, du nom de son fils. Le mot hébreu pour signifier la ville, c'est Ir. Et Ir, ça signifie un lieu gardé, un lieu protégé, un lieu où l'on veille. Et ça correspond bien à l'esprit de Caïn, qui était dans la crainte. Il avait dit à l'Éternel, « Tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond, et quiconque me trouvera me tuera. » Il vivait dans la peur. Un peu plus tard, dans ce même livre de la Genèse, donc il y a l'épisode du déluge, Et après le déluge, nous voyons aussi une volonté humaine de bâtir une ville qui s'élève. C'est l'épisode de la tour de Babel. Les hommes disent « Allons, bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. » Donc bâtir des villes, ce n'est pas la volonté de Dieu, premièrement. C'est bien la volonté des hommes, qui veulent en plus vivre éloignés de Dieu. Pourtant, dans les tout derniers versets, à la toute fin de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, nous lisons « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie, c'était l'arbre qui était dans le jardin, et d'entrer par les portes dans la ville. » Et donc cette fois-ci, l'arbre, il n'est plus dans le jardin, il est au cœur de la ville. Donc, Dieu promet une ville dans laquelle lui-même habitera avec ses enfants. Dieu pourvoit donc en tenant compte de notre volonté. Il est Yahweh Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Et même nos idées qui sont parfois pas terribles, eh bien il les transforme de manière glorieuse. Et il faut reconnaître que sa générosité dépasse de loin tout ce qu'on peut imaginer. Et il fait tout ça parce qu'il nous aime, tout simplement. Alors je me suis écarté, mais revenons au don. Paul insiste sur le don de prophétie. Il déroule toute une liste de dons qui sont tous merveilleux, hein, je pense qu'on le reconnaît tous. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie de voir l'effervescence de chacun de ces dons spirituels dans l'Église. Parce que je crois en cette parole qui a été écrite. Et j'ai l'assurance que Dieu pourvoit. Mais Paul va insister sur la prophétie. Alors la prophétie, il en parle comme un don spirituel pour édifier l'Église. Ainsi, pour lui, cette quête, ce n'est pas une option. C'est une nécessité. Ça répond à un besoin. Nous en avons besoin de la prophétie. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, dit-il, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Il y a des dons spirituels dont l'Église a besoin et nous avons besoin d'aspirer à ces dons. De prier pour ces dons. Nous avons besoin de chercher ces dons de tout notre cœur. Nous avons besoin de les mettre en action par amour pour l'Église, par amour pour ses membres, par amour pour Christ, pour l'édification du corps de Christ. Satan, lui, n'hésite pas à singer les dons de Dieu. Je pense que tout le monde s'en est déjà aperçu, chaque jour. Il promet monts et merveilles à ses victimes. En les dépouillant à petit feu, en profitant de leur faiblesse, de leur fragilité, de leur méconnaissance, en laissant entendre fièrement que Jésus est anathème, en plaçant des idoles dans la vie des gens, des objets de détournement, en détournant les consciences du chemin, de la vérité et de la vie. Et je me posais cette question, est-ce que parfois on prend bien la mesure de tout cela? Qu'il y a quelque chose de ténébreux qui est à l'œuvre et qui détruit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, nous dit Jésus. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et il a déjà beaucoup trop dévoré, et il dévore encore beaucoup trop aujourd'hui. C'est mon avis personnel. Jésus enseigne, c'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns, persécuteront les autres, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie tué entre l'autel et le temple. » Ainsi, en lisant cela, on peut se dire qu'il est probable que le mobile spirituel, même du premier meurtre, celui d'Abel, eh bien soit en lien avec la prophétie, le sang des prophètes qui a coulé. Jésus nous dit ici que l'ennemi a toujours cherché par tous les moyens à faire taire la prophétie, en se servant même parfois des systèmes religieux, des docteurs de la loi, à qui il s'adresse toujours vigoureusement, en leur faisant porter le poids des fautes. Jésus est quand même allé jusqu'à dire à des scribes et des pharisiens, « Vous avez pour père le diable. » Alors qu'eux, ils pensaient suivre la voie d'Abraham. C'est dire à quel point l'ennemi est rusé et qu'il détourne les personnes. Même les personnes qui peuvent être bien intentionnées. Et Paul, il vient de là. Il a été persécuteur. Il pensait que c'était pour la bonne cause. Et je crois que c'est pour cette raison que Paul insiste encore une fois sur le don de prophétie. Car il est une arme contre les ténèbres. Et il est une boussole pour l'Église. Et si Paul souhaite, tant que nous aspirions à ces dons, c'est sans doute parce que c'est une clé pour mener le bon combat. Dans l'évangile de Matthieu, nous lisons que, ayant appelé ses 12 disciples, Jésus leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc les disciples de Jésus ont reçu certains dons dont Paul parle. Toutefois, on peut noter que bien qu'ils aient reçu ces dons de Jésus, eh bien ils ont aussi connu des échecs. Ils n'ont pas réussi à chasser tous les esprits. Il y avait le fils de cet homme qui était lunatique, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il n'arrivait pas à chasser l'esprit. Est-ce que les dons de Jésus seraient parfois inefficaces? Je ne pense pas. Et Jésus, par sa réaction, a montré qu'il y a toujours un combat qui persiste. Les dons, ce n'est pas la finalité. Il y a le combat quotidien avec, en prenant compte de ça. Et le combat qu'il pointe du doigt, c'est l'incrédulité. Je crois que c'est un anti-don par excellence. Je crois que c'est le seul contre-pouvoir au don spirituel qui est décrit dans les évangiles. Cette incrédulité, ce doute. Lorsque Simon-Pierre marche sur l'eau, il a commencé à être impressionné par la tempête. Et puis ensuite, le doute s'est installé en lui. Et puis, il nous est dit qu'aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, et il lui dit quoi ? Mon pauvre, tu tombes ? Non. Il lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? L'incrédulité, le manque de foi, c'est le doute émis à l'égard de la parole et de l'œuvre de Jésus-Christ. Et l'ennemi est un fin stratège pour semer le doute et le faire se répandre en nous. Dieu a-t-il réellement dit ? Simon-Pierre, qui a bien connu ce combat, donc, écrit dans sa première épître, dans le dernier chapitre, donc il dit « Soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable rôde », nous l'avons vu tout à l'heure. Mais il dit ensuite « Résistez-lui avec une foi ferme ». Nous lisons aussi dans l'Épître aux Éphésiens « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre ses ruses, contre les ruses du diable. » Les dons sont importants et ils sont nécessaires pour mener ce combat. Ce n'est pas un combat de chair et de sang, nous le savons, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais il y a des dominations, des autorités, des princes dans ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'était une mission que Jésus avait aussi confiée à 70 disciples. Ça, c'est dans l'évangile de Luc. Pourquoi Jésus a envoyé 70 disciples ? Pourquoi il n'a pas envoyé juste les 12 ? C'est un symbole. Sans doute parce qu'en Genèse 10, on y trouve l'énumération des fils de Noé, ce qu'on appelle la table des 70 nations descendantes de Noé. 70, c'est le nombre de descendants de Noé. Les 70 disciples envoyés, ça peut être vu comme une annonce de ce que Jésus veut accomplir dans toutes les nations de la terre, par la puissance du Saint-Esprit. Et Luc nous rapporte que les 70 revinrent avec joie. Ils disaient « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Waouh ! Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. » Cependant, il dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Rien ne peut nous nuire, dit Jésus, sauf peut-être nous-mêmes, sauf peut-être l'état de notre cœur. Veillons à rester humbles, avec un cœur d'amour, et en rendant gloire à Dieu, Quels que soient les dons, quelles que soient les choses surnaturelles que nous pouvons vivre, gardons nos cœurs plus que toute autre chose. C'est ce que nous dit le proverbe, car de lui viennent les sources de la vie. Décidons d'aimer, aimer notre Dieu, aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est les commandements de Jésus. Et réjouissons-nous toujours de son œuvre, car il l'a fait en notre intérêt à nous, pour nous. Ce n'était pas dans son intérêt à lui. Je vous propose, en fin de ce message, que nous passions un temps de méditation, de prière autour de ce sujet. Parce que je pense que c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin et je crois que le Seigneur veut nous équiper, qu'il nous faut pour cela aspirer au don. Même si c'est mystérieux à nos yeux, même si on comprend mal ces choses. Donc, je vous propose un temps de prière silencieuse, mais si une ou plusieurs personnes sont poussées par l'Esprit du Seigneur à prononcer des choses à haute voix, des prières, des versets, des exhortations, ne retenez pas les paroles, ne retenez pas ces paroles. Édifions-nous les uns les autres, comme nous le dit la parole. Juste avant, je replace un peu de contexte. L'épître de Paul évoque trois dimensions de dons spirituels dans l'Église. La première, c'est les dons de révélation. Il parle de paroles de sagesse, de paroles de connaissance. Il parle du discernement des esprits. Et nous avons vu que nous avons besoin de discernement, discerner les choses spirituelles. Paul évoque aussi des dons de puissance. Il parle du don de la foi. Il parle du don d'opérer des miracles. Il parle des dons de guérison. Et Paul évoque aussi des dons d'inspiration. Il parle de la prophétie. Et il dit que c'est sans doute le plus important. Il parle des langues et de l'interprétation des langues. Si quelqu'un parle en langue, qu'il prie pour l'interprétation des langues, pour édifier le corps de Christ. Alors juste avant ce moment de prière, je vous laisse avec ce passage parce qu'il nous faut nous revêtir des armes de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit, l'épée qui est tranchante. Donc, prenons ces versets à cœur de Jésus. « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. » Jésus va prier le Père. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Bien Seigneur, nous voici. Nous sommes devant toi, nous sommes à ton écoute. Seigneur, tu as déchiré le voile afin que nous puissions être en communion avec toi, mais aussi afin que nous puissions recevoir les choses célestes que tu as préparées d'avance pour nous, afin que nous puissions être à l'écoute de ton Saint-Esprit et pour accomplir ton œuvre. Alors Seigneur, je te le demande ce matin, dans le nom de Jésus, ouvre les écluses des cieux. Répands, Seigneur, dans les cœurs, dans cette salle, et même à distance, Seigneur. Nous avons des frères et des sœurs qui sont à distance aujourd'hui, et nous pensons à eux, et nous savons aussi qu'ils te louent ce matin, qu'ils proclament ta parole, Seigneur. Alors nous te les confions aussi, Seigneur. Viens susciter dans les cœurs, afin que nous puissions aspirer aux dons les meilleurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Prions.